Voilà, ce soir nous sommes en train d'étudier le fruit de l'esprit. Donc ce soir nous allons étudier la dernière vertu de ce fruit. Nous allons lire ce passage qui se trouve dans nos Bibles, en Galates chapitre 5, versets 16 à 25. Galates 5, 16 à 25, je vais lire pour vous. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de la table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc, nous avons vu huit autres vertus depuis le mois de mai, je crois. Nous avons vu toutes ces vertus. Et aujourd'hui, nous avons la neuvième qui est la tempérance. La tempérance, autrement dit, c'est la maîtrise de soi. Depuis plusieurs semaines, nous étudions le fruit de l'esprit et nous avons vu qu'il n'y a pas neuf fruits, mais ce sont les différentes caractéristiques du même fruit, qui est le fruit de l'esprit. Notez donc que le fruit est singulier, pas pluriel. L'Esprit Saint produit une sorte de fruit, c'est-à-dire à être transformé à l'image de Jésus-Christ. Toutes les vertus maintenant énumérées décrivent la vie de l'enfant de Dieu. Le commentateur Scofield a souligné que chacun d'entre eux est étranger au sol du cœur humain. Ça ne pousse pas naturellement dans le sol du cœur humain. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les servants. Servants. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc tous ces fruits, c'est pourquoi on appelle le fruit de l'esprit. La parole l'appelle le fruit de l'esprit. Bien souvent, nous parlons de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et presque de toutes ces caractéristiques chrétiennes. Mais rarement, nous entendons parler de la tempérance qui est la maîtrise de soi. Et nous savons, chacun et chacune, combien nous avons besoin de ces caractères chrétiens, la maîtrise de soi. Et si nous nous demandons pourquoi l'apôtre Paul a dû placer la maîtrise de soi, la fin de cette magnifique liste d'attributs ou caractéristiques qui définit un chrétien ou un enfant de Dieu, nous ne pouvons pas le prendre comme un signe qu'il est moins important que huit autres. Mais il est en effet essentiel d'empêcher tous les autres d'être pervertis. C'est la maîtrise de soi qui retient dans le bon équilibre. Nous pouvons en quelque sorte le comparer avec le dixième commandement. Tu ne convoiteras point. est-ce moindre de tous les autres commandements? Nullement. Au contraire, il couvre dans une certaine manière tous les autres commandements. Toute vertu peut devenir une chose négative si elle n'est pas contrôlée, si elle n'est pas maîtrisée. Même l'amour a besoin de l'équilibre qui vient avec la maîtrise de soi. C'est le fruit de la maîtrise de soi qui dit, en croyant, quand il perd l'équilibre, de laisser un croyant qui veut être guidé par son chair plutôt que l'Esprit de Dieu. Mais c'est le fruit de l'Esprit, c'est le fruit de la maîtrise de soi qui le dirige. Que dit la Bible à ce sujet, la maîtrise de soi? En Proverbe, dans le livre de Proverbe, on trouve ce beau verset. Si tu trouves du miel, ne mange pas trop. Si tu trouves du miel, ne mange pas trop, sinon tu en seras dégoûté au point de le vomir, même si c'est le miel. Et un autre verset, en Proverbe 29, 11, le sceau donne libre cours à toutes ses passions, mais le sage les retient et les calme. Nous aimerions que davantage de passages dans la Bible nous parlent de la manière dont nous pouvons maîtriser les circonstances. Mais la Bible nous recommande d'avoir la maîtrise de soi, mais nous voulons parfois maîtriser les circonstances. En effet, il y en a beaucoup plus sur la manière de nous maîtriser nous-mêmes. Les Écritures nous avertissent, une ville démantelée, encore dans le livre de Proverbes 25-28, une ville démantelée, sans muraille, voilà ce qu'il est, l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Une ville ou une personne comme celle dont il est question dans ce verset seront et resteront malheureuses. Sans la maîtrise de soi qui vient de l'intérieur, notre vie est rendue vulnérable face à d'innombrables agressions. Nous savons combien de fois nous sommes assaillis par des forces extérieures. C'est pourquoi Dieu nous donne ce commandement. Je lis de 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et la plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu à la science la tempérance, ou autrement dit, c'est la maîtrise de soi, à la tempérance, la patience, à la patience, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On a besoin de toutes ces vertus pour connaître Jésus-Christ, pour être transformé à son image. Le croyant dont l'esprit est le maître est un croyant qui est maître de lui-même. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Immédiatement après avoir recommandé à ses lecteurs de se décharger de leur inquiétude sur Dieu, Pierre leur dit, soyez sobres, restez vigilant. Soyez sobre, c'est-à-dire ayez la maîtrise de soi, restez vigilant. 1 Pierre 5, 8. Tout au long du Nouveau Testament, nous sommes donc encouragés à pratiquer la maîtrise de soi. Néanmoins, cela ne nous est possible que si nous croyons fermement, véritablement, que nous pouvons nous maîtriser. La clé pour avoir cette maîtrise de soi, c'est d'être maître de son esprit. Mais c'est sans dire que nous ne maîtrisons pas notre vie nous-mêmes, mais on laisse Dieu maîtriser notre vie. C'est pour cette raison que Salomon a dit, Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. De même, Paul instruit ainsi les Romains en ces termes. En effet, ce qui est conforme, ce qui se conforme à leur nature propre se préoccupe des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Quel est votre état d'esprit? Êtes-vous rempli de pensées égoïstes, envieuses, jalouses ou amères? Ou vous préoccupez-vous de ce qui plaît à Dieu? Fixez vos regards sur Dieu, sa parole et les œuvres puissantes qu'il a accomplies en notre faveur. Ou vous concentrez-vous sur votre propre détresse, votre malheur et les mauvais traitements que d'autres vous ont fait subir? Selon les Écritures, le choix vous appartient. Nous allons maintenant voir quelques exemples de maîtrise de soi trouvés dans les Écritures. Et je sais que tout de suite, vous avez pensé à ce jeune homme, à Joseph, dans le premier livre de la Bible, qui a montré une attitude exemplaire quand il a été tenté par la femme de Potiphar. Son maître Potiphar avait tout confié dans la main de Joseph. Il était le maître sur la maison de Potiphar. Mais pourtant, Joseph était prêt à tout perdre pour la pureté de son âme devant son maître divin. Vous savez qu'est-ce que quand la femme de Potiphar approchait Joseph, il a fui de la tentation. Il posait cette question: comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc avoir la maîtrise de soi, c'est avoir la crainte de Dieu. Craindre le mal, vouloir faire du bien. Et un autre homme, c'est David. Et David, il a montré, David c'est un très bon exemple de la maîtrise de soi. Je lis le premier livre de Samuel, chapitre 26, versets 7 à 12. Je vais lire pour vous. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp. Et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et de clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. Mais David dit à Abishai: ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de Dieu, loin de l'Éternel? Vous voyez quelle maîtrise de soi qu'il avait. C'était l'ennemi de David. Il a pourchassé David pendant toutes ces années. Et maintenant, il peut penser que Dieu lui donne l'opportunité pour finir avec lui. Mais David, il avait une maîtrise de soi. Il a dit non. Non, car qui pourrait impunément porter la main sur le loin de l'Éternel? C'est le respect pour son Dieu, c'est la crainte de Dieu à donner la maîtrise de soi pour David. Les soldats, son général à côté, il voulait finir avec Saül, mais David, il a montré une grande maîtrise de soi. Et une autre fois, un homme vient maudire David. Je lis de 2 Samuel 16, 9 à 10. Alors Abishai, fils de Seruja, dit au roi: pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit: qu'ai-je à faire avec vous, fils de Seruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit. Maudit David. Qui donc lui dira: pourquoi agis-tu ainsi? Et souvent, nous sommes hors contrôle de ces circonstances et les situations que nous rencontrons. Nous ne pouvons pas changer nos circonstances ou les situations, mais nous pouvons avoir une maîtrise de soi quand nous savons que Dieu permet toutes choses dans notre vie pour nous rendre meilleurs. Et David, il a encore une fois il a montré une maîtrise de soi d'une manière très excellente. Mais en même temps, qui peut oublier les péchés de David? Cet homme David qui a démontré la maîtrise de soi en de nombreuses occasions est tombé si bas quand il a péché avec Bathsheba. Nous devons être constamment remplis de l'Esprit de Dieu, se détourner constamment du mal et chercher à faire le bien, à la gloire de notre Père Céleste. Cependant, Uri, le mari de Bathsheba, a démontré cette grande qualité de maîtrise de soi dans cette histoire. Je vous laisse contempler car nous n'avons pas le temps de le voir ici. Sinon, un autre exemple, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est notre exemple suprême. Les hommes et les femmes de la Bible sont des modèles pour nous lorsque nous cherchons ces caractéristiques. Mais tous sont pécheurs. Aucun d'entre eux n'est parfait, sauf notre Seigneur Jésus-Christ, qui était en chair et en os, mais qui n'a jamais péché. Quand il était tenté par le diable dans le désert, vous vous souvenez très bien de ce moment. Après, moi je lis de Matthieu chapitre 3. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et la maîtrise de soi, quand on a le pouvoir de faire quelque chose, quand on a le pouvoir de transformer les pierres en pain, pour manger, surtout Jésus, il avait très faim. Il avait jeûné pendant 40 jours. C'est au bout de 40 jours que Satan il amène Jésus pour lui tenter. Donc il présente les pierres, il dit que voilà, transforme ces pierres et, en pain et tu peux satisfaire ton faim. Mais quand il avait le pouvoir, il a montré la maîtrise de soi. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Encore une fois, le Seigneur, il avait la possibilité de faire ce que le diable il a proposé. Mais la parole, il a récité la parole de Dieu. Il avait tout le droit de faire, mais il a démontré la maîtrise de soi, encore une fois. Et le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. C'est une grande tentation. Et encore une fois, Jésus, il a montré la maîtrise de soi. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Maîtrise de soi. Et les Juifs disaient, il n'y a personne qui a parlé comme cet homme dans le monde. Mais pourtant, celui qui a parlé aussi puissamment, il a montré la maîtrise de soi quand il était frappé, quand il était maltraité. Nous voyons un autre homme dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il dit en 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 et 27. « Moi dont je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Vous voyez la maîtrise de soi dans cet homme. Il a tout fait pour assujettir son corps. Il traite durement, comme un sportif qui traite son corps. qui devrait entraîner pour gagner la coupe. Et encore en 1 Corinthiens 9, 24, 27, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Donc, un sportif, il ne fait pas pour les autres, mais il fait avec un but de gagner le prix. Il traite son corps durement, il maîtrise son corps. Et quel bel exemple! À maintes reprises, il nous est recommandé de nous débarrasser de nos mauvaises pensées et de mauvais comportements qu'elles suscitent afin de remplacer par de bonnes pensées et un comportement juste et droit. Donc, maîtrise de soi, ce n'est pas seulement ne pas vouloir faire des mauvaises choses et aussi avoir les intentions de faire de bonnes choses pour la gloire de Dieu, d'être rempli par l'Esprit de Dieu constamment. Et en Éphésiens 4, 21-24, nous lisons, on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme qui vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint conformément à la vérité. C'est pourquoi débarrassez du mensonge que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Donc nous voyons ici qu'il y a une bataille entre l'ancien homme et le nouvel homme, entre la chair et l'esprit. Et si vous êtes l'esprit, marchez selon l'esprit. Si vous êtes de la chair, vous allez marcher selon la chair. Donc, la question c'est, qui a la victoire sur qui? Donc, on va lire un dernier passage de Romains 12, 1 et 2. Je vous recommande donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît. Donc le Seigneur, il nous donne cette grâce de pouvoir vivre pour lui. Tous ces fruits de l'esprit, ce fruit de l'esprit qu'il nous donne pour pouvoir vivre une vie spirituelle pour lui plaire. Ces passages nous enseignent que nous devons nous revêtir d'une nouvelle nature en Jésus-Christ et nous dépouiller de notre vieille nature pécheresse. Dieu nous aurait-il demandé de maîtriser notre esprit et nos actions si nous n'en étions pas capables? Dieu est-il si éloigné de notre réalité ou il est si cruel qu'il nous ordonne de faire l'impossible? Et l'apôtre Pierre, dans son épître, il dit, tenez votre esprit en éveil, en faites preuve de modération. Et la maîtrise de soi, nous devrions pratiquer dans tous les domaines de notre vie. Soit de ce que nous mangeons, buvons, de notre parole. Job, il disait dans le livre de Job, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Et l'apôtre Paul, il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le Seigneur nous aide pour pratiquer ces vertus, de pratiquer cette grâce que Dieu nous donne par ce fruit de l'esprit, si, encore une fois, nous devrions être attachés à lui. Pour porter du fruit, nous devrions être attachés. Lui, le cep, et nous sommes des branches qui sont attachées avec cette cep. Donc, si nous ne sommes pas attachés avec lui, nous ne pouvons pas porter le fruit. Et si nous n'avons pas le fruit de l'esprit dans notre vie, nous allons satisfaire la chair. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à vivre pour sa gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes pour étudier ta parole encore une fois. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces grâces que tu nous as accordées. Seigneur, pour ce fruit de l'esprit, qui est l'amour, qui est la patience, qui est la maîtrise de soi, qui est la bonté, qui est la bénignité, la bienveillance. Seigneur, comme ta parole nous dit, Seigneur, que votre lumière, lui, que les peuples qui vous regardent peuvent glorifier le Père qui est aux cieux. Que notre vie soit transformée à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous soumettons nous-mêmes entièrement entre tes mains. Seigneur, fais ton œuvre en nous, Seigneur. Enlève ce qui n'est pas de toi et fais de nous dans l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions tout cela dans le bon nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.